Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui? Amen. Amen, amen. Je voulais vous parler ce matin de quelque chose dont j'ai parlé déjà, au sujet de l'alliance, de ce que représente cette alliance, l'alliance que Dieu a fait pour nous. Donc il est parlé beaucoup de cette alliance dans la parole et de ce que ça peut représenter pour nous. Et ce que j'ai mis, au-delà de cette magnifique photo, parce que donc on voit un anneau, donc comme une alliance, et on voit l'ombre qui dessine un cœur, donc sur le livre qui est la parole de Dieu. Et donc inscrit dans l'alliance, comme ce qui a été dit dans la prière de Chantal, je crois, nos noms sont inscrits dans les mains de Dieu. Et donc, chacun d'entre nous qui avons déjà accepté le Seigneur, nous savons que nos noms sont inscrits dans ses mains. Et on est inscrit dans cette alliance que Dieu a voulu. Et on va le voir tout à l'heure. Toutes les alliances que Dieu a voulu, c'est d'abord lui qui a été à l'initiative, c'est lui qui a voulu dans son cœur en premier. Alors qu'on pourrait se dire... C'est celui qui est le plus faible qui va demander du secours, qui va demander une aide. Eh bien non, c'est Dieu qui descend jusqu'à nous, comme Jésus l'a fait, qui s'incline vers nous pour nous proposer de faire alliance avec nous. Et de savoir que c'est Dieu qui a décidé cela. Et c'est Dieu qui a fait tout ce qui était nécessaire pour que cette alliance soit complète, qu'elle soit indiscutable, ça fortifie notre foi. Et si j'ai à cœur de vous en parler, c'est parce qu'en fait, de savoir que cette alliance, c'est Dieu qui l'a faite, c'est Dieu qui l'a écrit, ça fortifie ma foi. Ce n'est pas basé sur seulement ce que je peux penser, sur ce que d'autres pourraient penser, mais c'est basé sur ce que Dieu a pensé, fait, réalisé, écrit. Amen. Et de découvrir... que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Alors ce terme alliance, en fait, n'est pas toujours bien compris, puisqu'en fait, on l'utilise que très peu maintenant. On l'utilise donc au moment du mariage, où là, c'est vraiment un exemple, je dirais presque parfait, de ce que Dieu a voulu, unir un homme et une femme, et pour la durée de leur jour. Mais du fait que le mariage a perdu de sa valeur, que d'autres types d'alliances ont perdu leur valeur, parce qu'en fait, la parole des hommes a perdu de leur valeur. Alors nous, on peut s'aligner, c'est vrai qu'on a le choix, on peut s'aligner sur la parole des hommes ou on peut s'aligner sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez choisi? La parole de Dieu, j'en suis sûr. Mais qu'on le fasse de plus en plus. Et j'avais été interpellé lorsque ce soir, on a vu la cathédrale Notre-Dame à Paris brûler, de toutes les réactions, de tout ce que ça provoquait. Et je me disais, les yeux des hommes sont sur cette bâtisse, ce magnifique ouvrage, c'est sûr. Les yeux des hommes sont fixés là-dessus. Et moi, je me disais, mais Seigneur, tes yeux sont vers qui? Et les yeux de Dieu sont sur les hommes et les femmes. On a chanté, Jésus soit le centre. Et Dieu a fait de nous le centre de son cœur. Chaque homme, chaque femme qu'il a désiré ardemment, puissamment dans son cœur, il a les yeux sur chacun d'entre nous, sur toute sa création. Et bien sûr, parce que il a dit qu'il faisait l'homme à son image, donc quelque chose de merveilleux. Mais nos yeux ne sont pas sur des choses, des ouvrages magnifiques, mais sur Dieu, ou sur des hommes et des femmes aussi. Donc Dieu fait alliance avec des hommes, parce que le but de Dieu, c'est le cœur des humains. Et donc, à travers différentes réflexions, est-ce que ça marche? Voilà. Nous nous inscrivons dans une relation d'alliance. Et quand on réfléchit à notre foi, qui fait des hauts et des bas, je pense à cette image d'effeuiller la marguerite. Vous avez fait ça déjà? Ça fait longtemps. Je t'aime un peu beaucoup, il m'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie. Puis d'un coup, pas du tout, plus du tout. Est-ce que ce serait ça notre relation avec Dieu? Est-ce que Dieu serait inconstant comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Et notre foi, elle n'est pas avec des hauts et des bas comme ça? Oui, nous sommes touchés par des émotions et qui nous font traverser des hauts et des bas. Mais dans ces émotions même, le Seigneur est cette ancre qui nous tient pour nous tenir ferme avec lui. C'est-à-dire que nous sommes touchés par différentes choses, par un deuil, par des déceptions, etc. Mais notre cœur étant attaché à Dieu, lui l'ayant fermement attaché dans cette alliance, alors, c'est vrai, nos yeux, notre confiance est en Dieu. Donc nous allons arrêter d'effeuiller la marguerite au sujet de notre relation avec Dieu. Nous savons qu'il nous aime, un point c'est tout. Et donc, je vous ai dit, Dieu prend l'initiative, c'est le plus grand, le plus merveilleux, le plus fort qui prend l'initiative de faire alliance avec nous. Et donc, c'est une alliance qui va, bien sûr, créer une relation d'alliance. C'est-à-dire que là, nous sommes au profit de quelque chose, et c'est de découvrir dans la lecture de la Bible au profit de quoi nous sommes est faite cette alliance avec nous. Et il y a aussi une grande différence avec ce qu'est un contrat. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de contrat. Mais un contrat, il est très limité. Parce qu'il est limité pour certaines fonctions, pour certaines responsabilités, et puis il est limité aussi dans le temps. Et en plus, le contrat, il faut être tous les deux à signer. Mais avant que nous ayons signé, l'alliance de Dieu, elle est valable pour nous, parce que Dieu s'est engagé. Et donc, la force de cette alliance, c'est que Dieu s'est engagé pour nous. Il s'engage lui-même. Et Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se renier. Regardez toutes les alliances que Dieu avait faites avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec d'autres aussi. Dieu ne peut pas se renier. Quand il a fait alliance, c'est une alliance jusqu'au bout. Et quand Jésus a fait alliance, la nouvelle alliance, plus merveilleuse, on est au profit de cette alliance. Qui va pouvoir contester avec Jésus? Personne. Qui va pouvoir contester avec Dieu? Et donc, tout cela, c'est pour que notre foi, elle soit ancrée, elle soit sur de bonnes bases, elle soit sur les bases d'un engagement qui ne tient pas à nous, nos hauts et nos bas. Et le caractère d'amour de Dieu, bien sûr, la nature d'amour de Dieu est à la base de cette alliance. C'est par amour qu'il l'a fait. Mais il y a une autre traduction possible dans cette alliance, c'est la loyauté et c'est la fidélité. Parce que derrière cette alliance, bien sûr, il y a toute la loyauté de Dieu qui ne peut pas se renier, toute la fidélité de Dieu. Et parfois, nous ne voyons pas, effectivement, la main de Dieu dans les choses que nous pouvons vivre. Pour un temps, nous ne la voyons pas. Mais nous savons que Dieu est fidèle et qu'il est fidèle dans tout cet engagement. et de savoir que Dieu est fidèle quand ces choses-là sont écrites dans vos cœurs. Alors, je vous assure qu'elle vous donne une foi pour aller au-delà des circonstances. Et donc l'amour de Dieu n'est pas seulement pour les seules journées où nous serions à l'église, où nous serions conduits par le Saint-Esprit, inspirés et voyant la main de Dieu agir. Dieu, tout va bien, l'alliance est là. Et l'amour de Dieu reste le même, y compris quand nous sommes tentés et que nous chutons. L'amour de Dieu reste le même. Et ça nous surprend parce que la pensée de Dieu n'est pas celle-là. Puisque entre hommes, entre femmes, si on a démérité, eh ben on doit faire nos preuves quelque part derrière pour racheter cet accord de fidélité. Et ce qui n'est pas vrai pour Dieu. Et donc bien sûr, si nous chutons, les conséquences peuvent être sérieuses, très sérieuses même. Mais il ne faut pas confondre les conséquences de notre acte et la fidélité dans l'amour de Dieu. Vous le voyez, vous connaissez l'histoire de David, au moment où il a chuté avec Bathsheba, et puis tout le temps de repentance. Mais Dieu est fidèle, il ne change pas, il permet ces choses. Il permet l'endurcissement de cœur de David, mais aussi il permet que la parole de Nathan soit inspirée et révèle la vérité. Donc manifestant la fidélité de Dieu pour l'homme qu'il avait choisi pour ce temps. Et dans le terme alliance, ce qui peut nous rester à l'idée aussi, et ce qui était très courant à l'époque de l'Antiquité, c'est que les alliances étaient des alliances militaires. On allait s'allier avec un autre pays, un autre roi, par rapport à la menace d'une guerre, par rapport à la menace d'un conflit. Et notre histoire, l'histoire de la France, est celle-là aussi. Et en 39-45, nous avons bien parlé des alliés. Et quand on continue de suivre les événements politiques dans le monde, il est toujours parlé d'alliance et d'alliés. Ça semble moins fort qu'à l'époque de la guerre, mais les liens d'alliance existent toujours. Et donc, ce que vous pouvez comprendre à travers une alliance militaire, c'est-à-dire qu'un plus faible, un pays plus faible étant envahi ou sous la menace, l'autre pays ou les autres pays qui sont alliés avec lui viennent le défendre. Et Dieu se lève pour venir à notre secours. Et dans l'exemple du mariage, dans les vœux qui sont prononcés, les époux se donnent l'un à l'autre et sans limite de temps. Et Dieu ne met pas de limite à son alliance. Et envers les hommes et dans les alliances qu'il a prononcées donc, avec Noé, Abraham, etc., il est parlé d'alliance perpétuelle, sans fin. Ces alliances-là ont toujours leur portée aujourd'hui dans l'histoire de ce monde. Et quand on voit ce qui se passe en Israël, ne soyez pas surpris de certaines choses. L'alliance de Dieu, elle continue. Et ce peuple est au bénéfice des alliances que Dieu a prononcées. Peu importe toutes les stratégies des hommes, des puissances qui sont autour. Et nous allons lire. Tu le fais ? C'est bien. Donc dans Genèse 15, il est parlé donc de l'alliance avec Abraham, qui était Abraham à ce moment-là. Genèse 15, donc le verset 1 à 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et là, Dieu promet un fils. Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, » il ajouta, « telle sera ta descendance, une grande nation. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Et donc là, la troisième promesse, c'est un territoire très spécifique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, Robert en avait parlé il y a quelques semaines, concernant Israël, la théologie du remplacement qui peut être encore annoncée n'existe pas dans la Bible. Vous regardez, ouvrez vos yeux sur ce qui est écrit, ça n'existe pas. Dieu n'a pas rejeté le peuple juif parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. L'alliance de Dieu dure à toujours. Et qui serait pour prendre un autre peuple qui s'appelle l'Église, en remplacement. Les deux alliances, elles vont ensemble. Donc, dans Ésaïe 44, il nous est dit au verset 21 et 22, « Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Dieu rappelle dans Ésaïe la promesse qu'il a faite. Et cette promesse, elle est pour toujours. Il n'est pas question de théologie de remplacement. Et Paul nous le dit aussi dans Romains 11, qui est affiché au verset 29. Il réaffirme donc cette alliance. Et donc, Dieu n'a pas rejeté le peuple de la première alliance. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Donc toujours dans la valeur de cette alliance que Dieu a faite avec nous, il y a dans Jérémie 31, donc 33-34. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leur péché. À la fois, cette promesse, elle est pour nous, mais elle est pour le peuple de la première alliance. Et donc, au verset 35, c'est la suite. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Voilà ce que dit Dieu. Si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel, la descendance d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondations de la terre en bas peuvent être sondées, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, oracle de l'Éternel. L'engagement de Dieu est de se baser sur sa création et ce qu'il a fait dans le ciel, sur la terre. Et nous pouvons dire, le soleil brille toujours, et la lune et les étoiles aussi. Et les vagues, ils agitent toujours la mer. Et les galaxies gardent encore presque tout leur mystère, on pourrait dire. Et nous découvrons encore des choses, rien que dans les premiers centimètres de la Terre. Et donc l'alliance de l'Éternel, elle durera toujours. Dieu a sa main sur sa création, qui est, on a l'impression, plus la science progresse et plus les mystères sont aussi grands qu'ils étaient avant, parce qu'une chose qui est éclairée en éclaire d'autres et dans lequel nous n'avons pas forcément de réponse. Et le Seigneur nous demande d'ouvrir nos yeux sur ce que nous avons autour de nous, qu'il a créé, comme une garantie, une attestation de ce qu'il a promis, de son alliance. Et tant que ces choses durent, et tant que nous pouvons voir le soleil briller, la lune et les étoiles, tant que ces choses durent, l'alliance de l'Éternel, elle dure. Donc c'est certain que c'est une attestation visible et visible par tous. Ce n'est pas la simple signature au bas d'un contrat de quelqu'un aussi important qu'il soit. Dieu atteste ces choses comme étant la vérité d'une alliance qui ne périt pas. Et pour vous aider dans ce cheminement concernant l'alliance, comment elle était conclue à l'époque où David et Jonathan ont fait alliance entre eux. Et dans ces choses, nous allons voir que Jésus, quand il parlait à ses disciples, quand il était au milieu d'eux, a fait certaines choses. Et nous savons, parce que le Seigneur nous a révélé, quand nous sommes venus à lui, que ces choses confirment l'alliance que Jésus a fait avec nous. Et donc, dans ce thème de l'alliance avec David et Jonathan, je reprends l'extrait d'un livre qui s'appelle « L'Église messianique se lève » de Robert Adler. Et donc, bien sûr, parce que tout ce caractère historique, il faut forcément le découvrir, parce que ce ne sont pas des choses qui sont communes à notre siècle, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc dans 1 Samuel 18, donc qui est après que David ait vaincu Goliath, et dès que David eut fini de parler avec Saül, Jonathan, donc fils de Saül, s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. Et nous allons voir ce que voulait dire cette alliance qu'il faisait, donc avec ses vêtements, sa ceinture et ses armes. Donc le prix de l'alliance, quand Jonathan a décidé de s'allier avec David, il savait à quoi il s'engageait. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il l'aimait comme lui-même, c'est-à-dire qu'il était prêt à donner sa vie pour lui. Et donc c'était un engagement total à la vie et à la mort. Et David venait de faire un exploit extraordinaire. Jonathan, donc le fils de Saül, donc le prince, aurait pu prétendre à la succession sur le trône d'Israël et devenir roi d'Israël. Mais il avait en vue quelque chose de bien supérieur, de bien meilleur. Cela nous rappelle que Jésus, pour faire alliance avec nous, a évalué aussi tout ce que comporterait ce don total. Il a donné sa vie, lui le juste pour les injustes. Et donc Philippiens 2,5 nous dit, ayant en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ça, c'est le prix que Jonathan a estimé quand il a fait alliance avec David et le prix que Jésus a vu pour que chacun d'entre nous ayons la vie qu'il nous a donnée. Ensuite, il y a les échanges de vêtements, de ceintures et d'armes. Et donc, il est dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. Et là, il faut imaginer la scène où le prince va donner ses habits de prince à David, le berger, qui va donner ses habits de berger au prince. Donc, il y a un échange de valeurs, d'identité. Et donc, David devenant un prince et Jonathan devenant un berger. Aux yeux de ceux qui ont vu ça, ils ont vu ce qui se passait. Et on voit bien aussi pour nous ce que Jésus a fait. Lui, le Fils de Dieu, qui a pris notre condition pour que nous, nous devenions fils de Dieu. Et bien sûr, David, il ressemblait à un prince. Et il recevait cette identité de prince, quoi. Et ça voulait dire, dans cet échange aussi, j'accepte qui tu es, et toi, tu acceptes qui je suis. C'est ce que Jésus a fait aussi pour nous. Et Jésus a pris nos péchés pour nous revêtir de son manteau de justice. Pour ce qui est de la ceinture, elle représente la force. Et là, ça veut dire, ma force sera la tienne. Il y a un échange de force. Bien sûr, nous le comprenons dans les alliances militaires. Mais là, c'était un petit peu pareil, parce que si tu es en difficulté, je viendrai te défendre. Et vice-versa. Hébreux 4,15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Et l'échange des armes signifie, tes ennemis seront mes ennemis. nous combattrons ensemble. » Et vous voyez le coup pour Jonathan face à son père, quand vous lisez l'histoire. Comment il a pu aider David en le cachant à son père pour que la destinée de David aille jusqu'au bout. Et Jésus est devenu notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Il défend notre cause. Et bien sûr, nous avons découvert, en devenant chrétiens, que nous avions un ennemi que nous ne connaissions pas forcément, Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Nous avons à faire face à cet ennemi maintenant. Mais avec le défenseur qui est Jésus et l'avocat auprès du Père qui nous défend et qui a vaincu Satan. Nous connaissons l'issue de la bataille, même si nous voyons des choses qui nous sont contraires, mais nous connaissons déjà l'issue de la bataille, l'issue du combat. Ensuite, il y a conclure l'alliance. Et l'alliance se faisait toujours devant Dieu. Et comme le Dieu le fit avec Abraham, dans Genèse 15, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Il y avait un sacrifice d'animaux. Les animaux étaient coupés par la moitié. Et ceux qui s'engageaient dans l'alliance passaient entre les animaux qui étaient séparés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et quand Dieu est passé, donc je vous le relis, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et quand on faisait cela, ça voulait dire, si je trahis cette alliance, qu'il me soit fait comme à ces animaux. C'est-à-dire que ma vie soit ôtée et même coupée par la moitié. Et Dieu lui-même, quand il est passé au milieu des animaux partagés, s'est engagé pour nous. Cette manifestation a été pour montrer à Abraham que Dieu s'engageait lui-même. Alors ensuite, le signe de l'alliance, la coupure superficielle que les deux alliés se faisaient dans la paume de leurs mains et qu'ils frottaient avec un peu de cendre pour garder une trace permanente. On pourrait dire comme un tatouage aujourd'hui, mais ce n'était pas la même chose. Et ce qui fait que sur la main droite, cette trace était gardée. Ça veut dire que quand ils levaient la main pour saluer quelqu'un, on pouvait reconnaître que dans le creux de leur main, ils n'étaient pas seuls. Quand David ou Jonathan levaient la main pour saluer quelqu'un, on pouvait voir qu'ils avaient un allié. Et ce qu'on sait, ça a été relu tout à l'heure, que Jésus a gardé les traces, les marques des clous dans sa main. Et ces marques sont aussi la marque de notre nom écrit dans la main de Dieu. Et là, je voudrais vous lire Ésaïe 49. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voilà la marque que Dieu porte. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais inscrit sur ses mains. Et pour terminer, il y avait un repas à la fin, repas de l'Alliance. Et c'était un simple repas de pain et de vin où chaque allié disait, en présentant le pain et le vin, « Je me donne à toi. » Et c'est ce que Jésus a fait lors de son dernier repas, où il a pris le pain et il a pris le vin. Et les disciples savaient la valeur de ce geste. Ils savaient la valeur de l'alliance et la description de l'alliance leur revenait comme authentifiant que Jésus faisait alliance avec eux. Donc le repas de l'alliance, où Jésus nous dit « Ceci est mon sang » dans Matthieu 26, 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Et il annonçait le pardon des péchés de tous ceux qui viendraient à lui. Et c'est ce que nous rappelons aussi dans le repas du Seigneur, la Sainte Cène que nous prenons chaque dimanche. Et c'est un rappel de l'alliance éternelle que Dieu a fait avec nous. Et dans ce rappel de la Sainte Cène, dans ce rappel de l'alliance que Dieu a voulu, il a voulu qu'on se souvienne de ce repas d'alliance, afin que nous n'oublions pas son alliance éternelle. Et même lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. 2 Timothée 2, au verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Amen, Seigneur. Hébreux 13, au verset 20-21, et là je l'ai pris dans la parole vivante, qui nous donne pour conclure cette prière toute simple, mais qui nous rappelle que cette alliance a été faite de façon perpétuelle. Elle a été faite pour nous. Le Dieu de paix a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui a scellé de son sang l'alliance éternelle. Il l'a institué comme souverain, berger de ses brebis. Qu'il vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rende capable d'accomplir sa volonté. Qu'il nous rende capable veut dire qu'il nous perfectionne jour après jour. Le mécanisme est enclenché. Qu'il réalise lui-même en vous et en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette alliance, que ça vous aide à la fois imaginer ce qui a pu se passer dans l'Antiquité, lorsque une alliance était scellée entre les hommes, mais surtout que le Seigneur éclaire que c'est Dieu qui a fait alliance pour nous et que Dieu est un Dieu d'alliance. Il fonctionne par alliance. Et vous êtes devenus les alliés de Dieu. On va prier. Seigneur, nous te louons parce que ton amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Oui, Seigneur, ta fidélité s'étend jusqu'aux cieux, Seigneur. À l'infini, Seigneur. Et Seigneur, lorsque tu as parlé, Seigneur, nous ne pouvons plus douter, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce caractère d'alliance, Seigneur, la fiabilité, Seigneur, la loyauté de l'alliance que tu as faite avec nous, Seigneur, elle s'écrive dans nos cœurs afin que, quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous savons que tu as fait alliance avec nous. Nous savons que Jésus lui-même s'est donné, que son sang a coulé pour sceller l'alliance qu'il fait avec nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons de tout notre cœur nous soumettre à ton alliance, Seigneur. Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu sais ce que chacun, chacune a besoin, Seigneur. Pour ancrer sa foi, pour la sceller, Seigneur. Seigneur, je te prie de te révéler dans les profondeurs des cœurs, Seigneur, afin d'écrire ton alliance, Seigneur, afin que ce soit quelque chose d'invariable, Seigneur, qui fixe, Seigneur, comme quand, lorsqu'on voit le ciel s'illuminer, Seigneur, la nuit avec les étoiles et la lune, Seigneur, ou la journée avec le soleil, Seigneur. On puisse dire, ton alliance durera toujours, Seigneur. Tu es le même aujourd'hui que tu étais hier, que tu seras éternellement, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons regarder, Seigneur, en homme sensé, Seigneur, tout ce que cela veut dire pour nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, d'écrire ta révélation dans le fond de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.